J'ai pris comme sujet ce matin, artisan de paix. Notre monde est de plus en plus divisé, prompt à la colère et à la vengeance. Et les réseaux sociaux amplifient les conflits aujourd'hui. Les fake news, les incompréhensions entre générations, de culture et d'opinion politique qui s'intensifient. Et au milieu de ce tumulte, l'apôtre Paul nous lance un défi exigeant. Autant que cela dépend de vous, vivez en paix entre tous les hommes. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est à moi, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Et cette parole-là n'est pas une proposition qui nous est faite, c'est un ordre, un impératif, mais aussi une parole empreinte de réalisme, autant que ça dépend de vous. Parce que dans le monde où nous vivons, nous savons et que nous le constatons dans le monde entier aujourd'hui, on fait des efforts d'entente, de négociation, mais parfois, ça ne mène à rien. Autant que cela dépend de vous. Et donc, nous allons regarder un peu ce matin cette sagesse biblique à travers quelques personnages qui ont affronté ce défi. Et nous verrons comment leurs expériences peuvent éclairer notre propre cheminement. Le premier, ce sera Joseph, où il nous enseigne la paix par le pardon. Joseph, fils de Jacob. Son histoire est l'une des plus puissantes illustrations bibliques de la capacité à être en paix avec tous. Rappelez-vous, dans l'histoire de Jacob, qu'il a été vendu comme esclave par ses frères, motivé par la jalousie. Ils l'ont arraché à sa famille, à son avenir, à ses rêves. Et en Égypte, Joseph a connu l'emprisonnement injuste suite aux fausses accusations de la femme de Potiphar. Pourtant, des années plus tard, lorsque ses frères viennent chercher du grain pendant la famine, Joseph était en position de se venger. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité, et sans doute de bonnes raisons de leur rendre le mal qu'il lui avait fait. Mais que fait-il? Donc vers la fin de l'histoire, nous lisons, Joseph déclare, « Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien. N'ayez aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. » Joseph a choisi de voir la main de Dieu dans son épreuve. Il a choisi le pardon plutôt que la vengeance. Et le pardon dont Joseph avait fait preuve va au-delà d'un simple acte de générosité. Les recherches en psychologie moderne confirment que le pardon est essentiel à notre bien-être. Le pardon libère d'abord celui qui pardonne. Des études montrent que les personnes qui pratiquent le pardon présentent moins de symptômes d'anxiété, de dépression et une meilleure santé physique. Refuser de pardonner C'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en mourra. Le pardon n'est pas l'oubli ou la négation non plus. Joseph n'a pas prétendu que ses frères n'avaient rien fait de mal. Le pardon authentique reconnaît pleinement l'offense, mais choisit de ne pas se venger. Et le pardon est un processus, pas un événement. Joseph n'a pas pardonné immédiatement. Sa réconciliation avec ses frères s'est faite par étapes, avec prudence et discernement. Ça a pris du temps. Et des fois, quand nous sommes dans ces situations, nous savons que nous devons pardonner, n'est-ce pas? Mais nous ne voulons pas. Et nous devons digérer le mal qui nous a été fait. Et avec le temps, nous arrivons petit à petit à surmonter, à pardonner. C'est comme un deuil. Ça prend du temps, mais on guérit partiellement, petit à petit. Alors, comment appliquer cela, nous, aujourd'hui? Peut-être portez-vous un poids d'une blessure, d'une trahison, et votre paix intérieure est trop précieuse pour la sacrifier sur l'autel de l'amertume ou la haine. Comme Joseph, nous pouvons choisir de voir comment Dieu peut transformer même nos situations douloureuses en opportunités de croissance et de témoignage, si nous le voulons bien. Deuxième situation de paix, c'est par la sagesse et la médiation. Et on va prendre l'exemple d'Abigail, une figure moins connue que Joseph, n'est-ce pas? Abigail, que nous trouvons dans 1 Samuel 25, où il y a trois personnages dans l'histoire, cette partie-là. Il y a David, Nabal et Abigail. Et donc Abigail, c'est la femme de Nabal. Et c'est dans une situation assez explosive. David, futur roi d'Israël, mais actuellement, à ce moment-là, fugitif, a protégé les troupeaux de Nabal, un homme riche, mais la Bible dit dur et mauvais en ses actions. Et David envoie ses hommes demander une aide alimentaire. Nabal les insulte et les renvoie les mains vides. David, non, il ne pardonne pas tout de suite. David est furieux et il pense à comment justement se venger de Nabal. Il se prépare à le massacrer, lui et tous ses hommes. Une réaction peut-être compréhensive, mais excessive aussi, qui pourrait entacher son futur règne en plus. Et vous et moi, quand nous sommes blessés, quand nous nous sentons trahis, est-ce que des fois nous n'avons pas une réaction qui va au-delà de ce qu'il ne faudrait? Est-ce que nous n'aurions pas envie, non seulement pour rendre le pareil, mais puisqu'il m'a fait ça, je vais lui faire 10 fois pire? Non, je suis le seul à avoir cette réaction-là. C'est une, comme nous avons vu avec Jacob aussi, c'est une première réaction. C'est quand le mal nous est fait, on veut réagir sur le champ. Mais c'est là que Abigail intervient. Elle a été informée de la situation et elle prend l'initiative de préparer des provisions abondantes et va à la rencontre de David. Avec humilité, sagesse et diplomatie, elle reconnaît l'offense de son mari tout en dissuadant David de commettre un acte qu'il regretterait par la suite. Écoutons Donc, dans 1 Samuel 25, 28, il dit à David, « Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, alors mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement et s'être vengé lui-même. L'Éternel fera du bien à mon Seigneur et tu te souviendras de ta servante. » Amen. Comme négociation. Et David est touché par ce qu'elle dit et lui, il répond, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens. Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. » Et Abigail et la réaction de David nous enseignent plusieurs choses. Elle tient en compte les émotions de David, mais elle propose une solution justement qui en tient compte pour désamorcer les conflits. C'est le timing aussi qui est crucial. Elle n'attend pas, elle agit tout de suite avant que la situation ne dégénère. Et dans les conflits, un mot au bon moment, n'est-ce pas, peut souvent prévenir des années de souffrance. Et puis, il y a une médiation courageuse. Elle se place entre les deux hommes, David et Nabal, deux hommes en colère l'un avec l'autre, risquant sa propre sécurité pour établir la paix. Elle ne reste pas passive. Je ne sais pas pour vous, mais quand on voit des situations de conflit, notre réaction première, c'est de prendre du recul. Je vais voir comment ça finit. Mais si nous sommes artisans de paix, nous sommes appelés à être des instruments pour faire que ça finisse bien. Ça, c'est notre rôle. Et qu'en est-il dans nos vies? Peut-être Dieu nous appelle à être des médiateurs dans nos familles, sur nos lieux de travail, et ça peut être aussi dans nos églises. La médiation n'est pas un rôle facile parce qu'elle exige du courage, de l'audace, du discernement et de l'abnégation. Mais c'est un rôle crucial pour être en paix avec tous les hommes. Un troisième exemple de paix, c'est la paix que Jésus nous amène et la paix que Jésus démontre. Parce qu'aucune prédication sur la paix serait complète, n'est-ce pas, sans considérer l'exemple de Jésus. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous enseigne « Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Et puis plus radicalement dans Matthieu 5, 9, il déclare « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Rien que ça. Mais ces paroles n'étaient pas de simples théories, n'est-ce pas, pour Jésus? Sur la croix, face à l'injustice ultime, il prie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je pense souvent qu'ils se trompent, parce que j'ai quand même l'impression qu'ils savaient un petit peu ce qu'ils faisaient. Mais ce n'est pas pour vous. Mais Jésus incarne parfaitement ce principe de Romains 12. Il ne rend pas le mal pour le mal. Au contraire, il absorbe tout le mal dans son propre corps et le transforme en occasion de salut pour nous. Et donc l'exemple de Jésus nous montre un amour actif plutôt qu'une tolérance passive. Et la paix chrétienne n'est pas l'absence de conflit. C'est la présence active de l'amour agapé, là où il y a du conflit. Et la psychologie positive reconnaît que les relations saines exigent, oui, ça c'est intéressant, il faut 5 fois plus de démarches de paix, de bien, que les paroles négatives pour guérir. Donc, pour chaque parole négative que vous recevez, il faudrait 5 paroles positives. Une, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais non, on a... Et c'est vrai, n'est-ce pas? C'est à force de répéter, à force de combattre cette tentation de réagir de la même manière, en rendant le bien pour le mal, nous trouvons en nous-mêmes déjà la paix pour aller de l'avant. Et c'est aussi une vulnérabilité, voilà, c'est difficile à dire, qui devient une force. Et sur la croix, Jésus semble vulnérable, mais cette vulnérabilité devient le canal de la plus grande puissance jamais manifestée. Et les recherches montrent que la vulnérabilité authentique renforce les liens relationnels plutôt que de les affaiblir. Au lieu de devoir nous montrer forts dans un risque de conflit, si nous nous montrons faibles, c'est plus facile de négocier, c'est plus facile de trouver un terrain de paix. Et il faut reconnaître que nos conflits sont souvent basés sur l'ignorance des perspectives et des perspectives limitées. Chacun de nous réagit selon ce qu'il croit vrai, mais celui en face aussi. Est-ce que j'ai plus la vérité que l'autre? Nous le croyons, évidemment. Sinon, nous croirions autrement. Mais dans la pratique, il faut avoir l'humilité de reconnaître que l'autre peut avoir raison. Et dans nos vies quotidiennes, sommes-nous prêts à suivre cet exemple radical de Jésus? Sommes-nous disposés à bénir ceux qui nous critiquent? À prier sincèrement pour ceux qui s'opposent à nous? L'amour sacrificiel de Christ nous appelle à dépasser la simple cordialité pour atteindre une paix qui nous transforme. Et on ne peut pas finir en parlant d'être artisan de paix sans parler du monde dans lequel nous vivons. C'est une des situations que je vis peut-être d'un peu plus près en tant qu'aumônier militaire. Et combien je suis fier de servir le Seigneur dans ce contexte-là et de constater que nos militaires, nos armées, nos autorités militaires sont à une immense majorité à la recherche de la paix et non de la guerre. Et nous pouvons, vous pouvez en être fiers aussi. Tous ceux qui, je pense aussi aux gendarmes, vous avez peut-être vu aux infos encore récemment la grande augmentation dans les refus d'obtempérer, le nombre de blessés des forces de l'ordre, tout simplement pour ceux qui ont voulu échapper, ceux qui essayent de renverser les gendarmes ou les policiers pour s'en sortir. Là, pour avoir une attitude de paix, il faut du courage aussi. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et nous avons des situations dans le monde aujourd'hui de nations qui envahissent d'autres. nous avons souvent aux infos des arguments pour l'un et pour l'autre. Mais nous, chrétiens, notre but, c'est la paix, n'est-ce pas? Vivre en paix, autant que ça dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mais l'histoire biblique nous montre des exemples aussi de vrais défis. Pensons à Israël. L'Israël de l'Ancien Testament, pas l'Israël d'aujourd'hui, où il y a encore des conflits, mais Israël de l'Ancien Testament face aux nations hostiles, ou à Daniel et ses amis, servant fidèlement Dieu en captivité dans l'Empire babylonien, qui avait détruit le pays. Ou l'exemple de Néhémie, qui voulait reconstruire dans un contexte hostile. Et Néhémie illustre magnifiquement comment naviguer entre la recherche de paix et la défense légitime. Parce que ce sont toujours des défis éthiques, n'est-ce pas? Ce serait beau si tout était noir et blanc, où on pouvait dire « voilà ce qu'il faut faire ». Mais le monde nous présente des situations où si on fait le bien, si on cherche la paix pour l'un, ça va faire du mal, ça va être la guerre pour l'autre. Comment choisir? Comment trouver le juste équilibre? Et Néhémie, il ne reste pas passif face à l'agression. Dans Néhémie 4, nous lisons, « C'est pourquoi je plaçais dans les endroits les plus bas de l'espace derrière la muraille et dans les endroits découverts, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et me levant, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Et donc, ils construisaient le mur, mais avec les armes à la main. Et il utilise trois éléments cruciaux. La prière constante, aussi dans le texte, nous prions notre Dieu. La préparation défensive, nous établissons une garde, et la recherche de solutions diplomatiques quand c'était possible. Alors, quels sont les principes bibliques pour les nations aujourd'hui? Je pense qu'il y en a plusieurs. Premier, c'est le droit à la légitime défense. Même Jésus, qui nous appelle à aimer nos ennemis, n'est-ce pas? Il reconnaît ce droit dans Luc 22, 36, c'est un texte qui nous surprend, mais qui dit que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Et ce passage exige une interprétation nuancée, mais suggérant que la préparation défensive n'est pas incompatible avec l'amour chrétien. Je pense que souvent nous parlons de tourner l'autre joue, n'est-ce pas, en tant que chrétien. Et c'est bien biblique. Et c'est ce que Dieu nous demande quand nous sommes attaqués, c'est de ne pas justement nous venger, d'avoir cette attitude de pardon, de tourner l'autre joue. Par contre, et j'espère que nous y arrivons plus ou moins, 20%, 50%, peut-être un peu plus, cette attitude de pardonner. Mais là, c'est pour nous-mêmes. Si c'est notre famille qui est en danger, est-ce que nous allons aussi tourner l'autre joue, ou est-ce que Dieu nous demande de prendre soin de nos familles, de les protéger, de les défendre. Difficile de concilier les deux, n'est-ce pas? Et nous sommes tellement souvent aujourd'hui dans ce genre de situation. Dans les guerres qui ont lieu dans le monde aujourd'hui, nous avons des fois des responsables politiques qui ne semblent pas vouloir négocier, et nous avons en face d'autres qui font tout ce qu'ils peuvent pour la médiation, comme nous avons dit avec Abigail tout à l'heure. Comment comprendre, comment justifier nos réactions? Et quand il y a, comme nous avons vu ces derniers jours, des dizaines, voire des centaines et des milliers de personnes de tuer injustement, et nous ne faisons rien. Parce que nos responsables pensent, si on fait quelque chose, on va déclencher encore une guerre. Mais jusqu'où peut-on aller en prenant du recul pour regarder? Comment pouvons-nous être des instruments de paix dans ce monde d'aujourd'hui? Donc, il y avait le principe de œil pour œil, dent pour dent, qui était de l'Ancien Testament, et Jésus a plutôt contredit cela, n'est-ce pas? Mais le principe, ce n'était pas donner ce que vous avez reçu, mais comme on a dit tout à l'heure, notre tendance serait de faire 10 fois plus. Et là, c'est pour limiter la réponse. Et donc, c'est la même chose pour nos gendarmes, où là, leur réaction doit être proportionnée au risque. Donc, ça, c'est pour nous calmer un petit peu. L'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. Les autorités ont été instituées par Dieu. C'est Paul qui l'a écrit face à Rome. Et il dit que les autorités ont été instituées par Dieu. Donc nous devons trouver ce juste équilibre de respecter l'autorité, de chercher la paix et de ne pas simplement regarder de derrière quand nous pouvons faire quelque chose pour que la paix vienne. Être en paix avec tout le monde n'est pas aussi simple que ça n'en a l'air au premier abord, n'est-ce pas? Je vous donne quelques citations pour finir. Il n'y a jamais eu de bonne guerre ni de mauvaise paix. Benjamin Franklin. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est souvent cité celui-là, mais ça date de Jules César. Mais c'est un peu ce qu'a dit notre chef d'état-major des armées il y a quelques semaines, n'est-ce pas, en disant que si nous voulons la paix dans le monde aujourd'hui, nous devons être prêts, non pas à simplement prendre du recul, mais être prêts à nous défendre et à agir dans le monde d'aujourd'hui. Aristote, l'objet de la guerre, c'est la paix. Et Georges Clemenceau, il est plus facile de faire la guerre que la paix. Donc, deux exemples, j'allais dire contemporains, mais Corrie ten Boom est décédée depuis quelques années maintenant. Mais c'est que notre témoignage chrétien brille le plus clairement quand nous refusons la haine face à l'injustice. Et Corrie ten Boom, vous connaissez probablement sa histoire, elle était survivante des camps nazis. Et elle en témoigne. Après la guerre, face à un ancien garde qui avait maltraité sa sœur, elle a choisi le pardon, non pas en niant l'horreur de ce qui s'était passé, mais en choisissant de ne pas laisser la haine définir sa réponse. Et puis, Dietrich Bonhoeffer, qui a été exécuté par les nazis pendant la guerre, dit « Il n'y a pas de paix sur le chemin de la sécurité, car la paix doit être osée. » C'est le grand risque. La paix doit être osée. Et il a été exécuté peu avant la fin de la guerre. Osons la paix. Seigneur, tu sais combien facilement nous pouvons être blessés, combien facilement nous sommes tentés de répondre, de nous venger. Tu vois les situations de notre monde d'aujourd'hui, avec tant d'injustice, tant de cruauté. Et c'est dans ce monde-là, Seigneur, que tu nous places et que pour l'instant tu nous laisses. Alors, Seigneur, dans ces situations, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à pardonner, à nous aider personnellement à tourner l'autre joue, mais aussi à nous donner le courage, l'audace et la foi pour intervenir quand nous pouvons pour que la paix revienne là où il y a le conflit. Aide-nous, Seigneur, à oser la paix. Amen.